Bonjour chers auditeurs, je vous salue pour ce dernier lever de rideau pour un spectateur. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et ce sont des adieux dans le sang. Aujourd'hui, nous parlons de la pièce Massacre. Alors je vous disais, on parle aujourd'hui de Massacre, une pièce donnée en cantor au milieu du mois de mai, je n'ai plus les dates en tête, excusez-moi, et qui parle d'un événement historique bien connu dans l'histoire de France, qui est celui de la Saint-Barthélemy. La pièce est adaptée d'une pièce originale en anglais de Marlowe. Aujourd'hui, pour en parler, je reçois une de mes chroniqueuses, Caroline. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Bonjour.
Elle est schizophrène, mais ça on le savait déjà. Et comme c'est la dernière émission, j'ai décidé de faire n'importe quoi et de varier un peu le format. Et donc aujourd'hui, je reçois en même temps. Donc vous aurez à la fois la chronique et l'entretien, les deux metteuses en scène de la pièce. Je les salue. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et bonjour Mélissa.
Bonjour.
Alors comme on va quand même faire les choses bien et que je suis la caution historique de cette émission, n'est-ce pas ? Vive les L3 d'histoire. Je suis historienne mais pas extrémiste. Je vous livre les événements tels qu'ils se passent dans la pièce et pas dans l'histoire. On commence sur le mariage de Margot, catholique, avec Navarre, protestant. Et pourtant, dans l'ombre du roi de France Charles IX, Catherine de Médicis, la mère, Anjou, le frère qui se verrait bien roi à la place du roi, et Guise, le cousin, que du beau monde donc, orchestre le massacre des protestants de Paris lors de la nuit de la Saint-Barthélemy. À partir de là, les rouages de la mort sont en place, Charles IX se meurt, Anjou lui succède, mais son amant préféré est tué par Guise, alors Guise est assassiné, Henri III, Anjou, est assassiné. Il ne reste plus que Navarre le protestant pour être roi de France, après s'être fait baptiser. Car Paris, on le massacre tant, Paris vaut bien une messe. Pour en parler, donc je vous disais, nous écoutons ce qu'a à nous dire Caroline.
Commencez au début. Au commencement était la table vide du banquet, sur la scène dénudée. Puis les hommes et femmes empressés apportèrent des plats invisibles. Après le mariage, après la messe, la lumière scinta de sang et le premier corps tomba. Et les poissons se mirent à festoyer. Non, au début de la vision, pas au début du monde. Ben, au commencement, était à table vide du banquet, sur la scène dénudée, puis les hommes et les femmes empressés apportèrent. Je répète tout ? Non, non, cela ira. Parlez-moi des femmes. Elle était une et triple à la fois, sous ses voiles noires, pieds blancs. Mère, belle-mère et épouse. Et puis l'épouse s'est évaporée, la belle-mère a cassé sa pipe avec des baskets fluo, ne laissant que la mère. Castratrice, bien entendu. Bel exemple d'Oedipe. Poursuivez. D'ailleurs, si vous y réfléchissez bien, il y avait aussi trois Henri, Anjou, Guise et Navarre, à tenter d'enlever la pile des couronnes enchevêtrées comme des épines sur la pauvre tête du roi Charles. Oui, nous avons déjà abordé les symboles religieux lors de la séance précédente. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Assez perturbant, docteur. Ces hommes qui changent d'identité en gardant un même visage et qui partagent un même nom tout en ayant un visage différent. La foule, l'individu. Qu'est-ce sinon une illusion ? La lumière d'un phare attirant les papillons fébriles de notre jeunesse. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Quoi ? Quoi, quoi ? Parlez-moi des cadavres. Ils étaient partout, jetés dans les airs entre les éclairs et de lumière vacillante, amoncelés, déchiquetés, volants, les coutures ouvertes. Les entrailles, vous voulez dire ? Pardon ? Lapsus, couture pour entrailles. Non, non, docteur, les coutures étaient les entrailles. Intéressant ! Vous pensez donc qu'il n'y a pas de différence entre le corps et le vêtement ? Est-ce que cela vous effrayait ? C'est-à-dire que oui, mais non. En fait, cela ressemblait plus à mon appartement avant un jour de lessive. Ces montagnes de linge sale jetées un peu partout. Et c'était drôle ! Et on partait massacrer les protestants comme on fait exploser la tête des aliens. Mais lorsqu'ils l'ont tué... Définitivement pas maniaque de la propreté. Qui il ? Mais celui qui... Ah, je ne sais plus. Un homme avec des yeux. Ils ont déchiré sa veste comme on écartèle des membres sur la roue, et alors ? Mais il y avait l'autre aussi. Le roi qui n'était plus roi, puisqu'il était déjà mort. Changé de religion et déshabillé sur scène. La violence, docteur, la violence. Plus terrible à regarder que tous ces monceaux de cadavres et des assassinats filmés. Corps supplicié, nu, les bras en croix. Délire messianique. Et qui l'a tué ? Lui, le petit homme, haut comme trois pommes, à cracher par terre, mais un charisme. Docteur, je suis inquiète. Déjà dans L'Homme qui rit, j'avais adoré Barkilphedro, le manipulateur sournois de l'ombre, et là, mon cœur battait pour ce meurtrier de masse sans morale ni limite. Cela veut dire que je suis sociopathe ? Non, simplement que vous avez des goûts de merde en matière d'homme. Sinon, ça vous arrive souvent de faire exploser la tête des aliens ? Vous voulez un pamphlet sous l'influence des jeux vidéo sur la violence ? Et puisque c'était pour rire, docteur, puisqu'ils riaient eux aussi. Et puis ce n'était pas réel, puisque les morts se relevaient, puisque les personnages existaient dans les petits écrans, et dans les grands écrans, et en parallèle, et en décalé. Mon Dieu, vous avez raison, je ne sais plus. Le temps était sorti de ses gonds, à la fois moderne et désuet et historique, et puis la temporalité des guerres de religion. Vous savez qu'ils écoutaient une radio transistor ? Mais les images sur l'écran de télé ressemblaient à des tableaux de maîtres flamands. hallucinations visuelles et auditives. Vous avez dit quelque chose ? Caroline, nous en avons déjà parlé. Les voix sont dans votre tête. Les images sont aussi dans votre tête. Quelle est la différence entre la réalité et l'illusion ?
Dans la réalité, les murs sont blancs et carrelés et la nourriture est dégueulasse. Voilà.
Et les gens ne vivent pas dans les écrans. Vous le comprenez, cela ? Mais ils saluaient ! À la fin, docteur ! Ils saluaient avec les acteurs, les petites mains, les créateurs de vidéos et même qui faisaient la roue.
Là, 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 tout va bien. Vous allez prendre les gentilles petites pilules roses et tous les méchants cauchemars vont s'en aller.
Non, non, vous ne comprenez pas, docteur. Ce n'était pas des cauchemars. Même si ça aurait pu en être, ça aurait dû en être. Le massacre, mais pour de rire et sans une goutte de sang.
J'aurais bien aimé du sang quand même.
Psychopathe. Tout va bien, calmez-vous, prenez vos pilules.
Non, je ne veux pas de pilules. Je veux retourner dans la salle de spectacle avec les hommes aux différents visages et massacrer des piles de lessive sale en dansant avec des baskets fluo.
Lâchez-moi, lâchez-moi.
Non, vous voyez, ça va vraiment en s'aggravant. Si on lui enlève la camisole, elle s'attaque elle-même, elle essaie de s'en prendre à ce docteur qui la tourmente. Je pense qu'il faut la remettre sous sédatif.
Le petit bonhomme en mousse, il court, il rate le plongeoir. Il est mort !
Il faut l'empailler. Je ne suis pas folle, vous savez.
Bonsoir.
Merci Caroline. Alors maintenant, on va pouvoir en discuter puisque nous avons les deux metteuses en scène à portée de main, à portée de griffe. Alors les filles déjà, donc Pauline et Mélissa, est-ce que vous voulez bien commencer d'abord par nous présenter la troupe et disons l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur la pièce, y compris les petites mains qui saluaient à la fin ?
Déjà, on ne peut pas vraiment parler de troupe pour l'instant, parce qu'en fait, on a commencé à faire... donc l'année dernière, on a fait une mise en scène à l'ENS aussi, donc Lorenzacci au compost dramatique. C'est donc notre deuxième mise en scène en commun avec Mélissa. Donc nous, on va dire qu'on est le petit noyau dur. Après, il y a le noyau dur un peu plus large avec notre équipe technique, qui était la même l'année dernière que... Enfin, c'est un petit peu élargi, mais il y avait le même noyau donc de régisseurs et créateurs vidéo, son et lumière. Et on a fait appel aussi à deux cadreurs. Et après, il y a les acteurs, qui n'étaient pas les mêmes que ceux de Lorenzaccio, que nous avons choisis, qui nous ont choisis aussi. Ces acteurs viennent d'horizons assez différents. Il y a des élèves de l'ENS, il y a un élève qui est sorti du conservatoire l'an dernier, un jeune homme qui est passé par l'ENS et qui aujourd'hui fait plein de choses différentes. Enfin voilà, donc c'est des parcours assez atypiques, des expériences de jeu aussi et de théâtre assez différentes, des niveaux, même si ce mot est absolument laid pour parler de ça, mais en tout cas des approches de jeu avec des années d'expérience, pas forcément le même nombre d'années d'expérience de jeu. Voilà, c'est notre équipe. Équipe, c'est plutôt un mot qu'on préfère.
Donc vous étiez le petit noyau dur, les deux metteuses en scène pour un spectacle, je cite, renommé, retraduit, recousu, remonté, rhabillé, rejoué. La pièce originale, c'est une pièce de Marlowe. Quel travail vous avez fait sur le texte original et à quel point est-ce que, parce que je le confesse, ne pas l'avoir lu par exemple, à quel point est-ce que vous avez retravaillé ce texte, à quel point est-ce que vous l'avez fait vôtre et comment ?
Après avoir fait Lorenzaccio, qui était donc un texte immense qu'on a troué pour pouvoir insérer des choses, des textes, des matériaux textuels différents à nous. On s'est inséré dans le texte, on a forcé ses ouvertures parce que le texte était assez compact, donc on l'a complètement composté, hein, d'où de notre sous-titre compose dramatique. Et on cherchait un texte qui aurait pu nous permettre de faire le même travail. On a donc des textes très très larges qui soient assez connus du grand public pour pouvoir faire ce travail sans être taxé d'opacité ou d'obscurité. Et en fait, il se trouve qu'on n'a pas du tout fait ça. On est allé à sens inverse, puisqu'on a choisi un texte qui était pas très connu mais qui était troué d'origine, et donc j'ai fait lire à Mélissa le Massacre à Paris dans la traduction de Pascal Collin,
qui est en fait une traduction qui était extrêmement sèche et lacunaire par moments, mais comme peut l'être le texte de Marlowe en fait, parce que ce texte là nous est parvenu pas entier, c'est-à-dire qu'il manque plein de pans et de scènes qu'on pourrait attendre, par exemple toutes les scènes de conspiration etc. qu'on pourrait attendre dans ce genre de texte. Marlowe du coup est un auteur de la même période que Shakespeare à peu près pour un peu situer les choses, et du coup, toutes ces scènes-là, qui seraient attendues, ne nous sont pas arrivées, en fait, historiquement. Donc nous, on s'est retrouvés avec un texte qui est finalement un assemblage de petits bouts, avec parfois des liens logiques, parfois pas, et parfois des grandes, grandes sautes, des sautes logiques, en fait, vraiment. Et quand Pauline m'a proposé de lire ce texte-là, dans cette traduction de Pascal Collin, qui était extrêmement courte, extrêmement rêche, en fait, il s'est avéré que nous qui essayions de faire des trous dans des textes pour mettre ce qu'on avait à y mettre dedans, ce qui nous agitait, ce qui nous interrogeait, etc., bah, le texte, en fait, se prêtait déjà à ça, puisqu'il était déjà troué, quoi. C'était de la dentelle de Calais, ce texte. Et donc nous, notre démarche, ça a été vraiment de pas nécessairement de reconstruire des parties qui étaient inexistantes. Je parlais des scènes de conspiration qui n'existent pas. On n'a pas réécrit des scènes qui nous auraient paru manquantes sur le plan de la dramaturgie globale du spectacle, mais plutôt on a choisi d'utiliser ces espaces pour mettre des choses qui nous faisaient réfléchir, nous agitaient, quoi, nous faisaient bouger. Et voilà, donc au final, pour répondre à ta question, du coup Marie sur la question de la réécriture. Il y a une partie de la réécriture qui passe par la retraduction, dont Pauline pourra parler parce que c'est Pauline qui a retraduit le texte original. Et il y a une partie d'écriture vraiment personnelle, originale. Pour le dire simplement, en fait, on a gardé quasiment la totalité du texte original. On n'a pas recomposé des scènes qui existaient déjà dans le texte original, qui était un peu la différence par rapport au spectacle de l'an dernier où on avait recomposé pas mal de scènes à partir de scènes qui existaient déjà. Et les scènes originales de Mucem n'apparaissaient pas là. Quasiment toutes les scènes de Marlowe apparaissent en fait, à l'exception, je crois, d'une qui est un petit peu difficile à mettre en œuvre.
Un intermède farcesque basé sur le sang en fait. Et comme notre parti pris de mise en scène reposait entre autres sur l'absence de sang dans la pièce, c'est pas qu'on s'est dit là il y a du sang donc on coupe, c'est plutôt qu'on s'est dit est-ce vraiment le meilleur endroit pour faire apparaître pour la première fois et la seule fois du sang. Et comme l'intermède est vraiment farcesque et inutile mais voulu, on a pris la décision de l'enlever. Et sinon, on a juste compacté un tout petit peu certaines scènes parce que, par exemple, les textes de Navarre sont devenus des monologues, mais qui sont quand même adressés. Et normalement, il y a des gens qui nourrissent ces paroles et en l'encourageant, etc. C'est pas parce qu'on n'avait pas assez d'acteurs ou je ne sais quoi. C'était pas par dépit ou par défaut qu'on a fait ce genre de choix textuels. On les a fait assez tard. Et on les a fait parce que ça découlait de parti pris de mise en scène. Par exemple, on trouvait ça assez beau. On trouvait ça intéressant que Navarre soit tout seul comme protestant et entouré de catholiques tout le temps et qu'il n'y ait que lui qui soit un protestant vivant et que le seul autre protestant qu'on voit c'est l'homme qui se fait tuer dans la forêt et qui du coup passe plus de temps à être mort que vivant.
Ou l'amiral de Coligny mais qu'on voit uniquement en vidéo et qui est symbolisé par le premier manteau qui tombe en fait au tout début du massacre quoi. Mais c'est vrai que c'est les deux seuls protestants ouais. À part Navarre qu'on peut voir et c'est vrai que c'était un choix délibéré.
Bon, je vais peut-être revenir un tout petit peu sur la traduction. Du coup j'ai repris le texte original de Marlowe. Je me suis nourrie de deux traductions. Avec Mélissa, on avait lu plusieurs fois deux traductions. Celle de Pascal Collin, dont on vous a parlé au Solitaire Intempestif, et celle de Jean Vautier, donc dans les éditions du TNP, enfin de la NRF pour le TNP, en fait pour la mise en scène de Patrice Chéreau en 72. Et deux traductions complètement, des approches très très différentes. Une approche très sèche, très rêche, très lacunaire, comme l'a dit Mélissa, et une approche un peu plus fleurie, un peu plus chargée, où justement on s'apercevait qu'il y avait une tentative de vouloir combler certains manques, qui parfois étaient un peu lyriques, et qui nous plaisaient pas forcément toujours, mais qui était quand même assez intéressante à étudier, dans l'extrême inverse. Et du coup, entre ces deux traductions et avec le texte original, j'ai fait mon chemin un peu de traduction, toujours en soumettant régulièrement mes propositions à Mélissa pour qu'on travaille toutes les deux en accord. Et après, le texte, une fois qu'il a été traduit dans son intégralité, il a bougé un petit peu avec justement ses parties prises de mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a coupées, tout simplement parce qu'on a décidé de travailler avec un texte qui du coup est malléable, toujours dans l'idée de respecter quand même bien sûr le texte et son énergie et ce qu'il essaye de traduire, de transcrire. Mais parfois, quand un acteur a un mot qu'il n'arrive pas forcément à mettre en bouche, un mot qu'il gêne ou quelque chose sur lequel il met pas une image, par exemple pour Guignotte, on en parlait tout à l'heure, un mot qui était dans le texte original et qu'on a enlevé parce que ça ne disait rien à personne, sans devoir sinon on aurait dû justement fournir des explications etc, ce qu'on n'avait pas envie de faire. Du coup en fonction de ça, on s'est adapté aussi, on a adapté le texte au plateau et sans se soumettre au plateau, mais en prenant en compte tout simplement les exigences de certaines choses, nos partis pris, les desiderata des acteurs, tout ça.
Et en plus de ça il y a quelque chose, je sais pas si ça ressort quand on voit le spectacle, mais il y a aussi des parties du spectacle qui sont entièrement improvisées en fait et qui se renouvellent un peu tous les soirs et qui bougent un peu tous les soirs, y compris des parties de texte qui sont certes minimes par rapport à l'économie globale peut-être 2/10 du spectacle, mais il y a une partie de moments textuels où on a choisi plutôt d'avoir un canevas, enfin de donner aux acteurs un canevas, que ce soit un canevas à partir du texte de Marlowe ou à partir de ce que nous on voulait faire ou simplement à partir des propositions qu'ils ont fait en impro en fait. Et on a conservé on voulait conserver cette dynamique d'improvisation parce que ce que disait Pauline et qui est à mon sens très important, c'est que ce qu'on souhaitait respecter dans le texte de Marlowe, c'était avant tout son énergie en fait, et plus que sa lettre vraiment à proprement parler. Évidemment qu'on peut pas faire n'importe quoi sous prétexte qu'on veut en respecter ou en restituer l'énergie, mais cette idée de travailler aussi avec des passages textuels improvisés tous les soirs nous paraissait rentrer dans cette espèce de volonté qu'on avait de respecter la dynamique quoi et le mouvement du texte.
Est-ce que, par exemple, le début où ils apportaient les plats autour de la table, c'était pas scripté, c'était improvisé ?
Alors, il y a une partie qui est scriptée, en fait. Enfin, à partir du moment où Catherine de Médicis commence à dire « telle personne mettait là-là, telle personne mettait là-là », ça, c'est écrit. Et en fait, justement, ça, c'est devenu un canevas autour duquel, du coup, Juliane, qui joue Catherine, a rajouté tout un tas de choses. Ces histoires de « je veux 12 blocs de foie gras », c'est effectivement pas écrit.
Ça,
quoi.
C'est arrivé le premier soir.
C'est de l'impro total.
Ça, et Charles aussi, donc le roi, qui, en fait, nous, donc, pour ceux qui n'ont pas vu la pièce ou pour ceux qui l'ont vu mais ne s'en souviennent pas, pour ceux qui s'en souviennent mais voudraient me réentendre le dire, on passait aussi, vous êtes des allers-retours sur scène parce qu'on voulait créer un mouvement de dynamique générale de préparation de mariage, créer cette espèce d'émulation.
Ça se sentait très bien.
Et en fait, donc Mélissa et moi, on faisait toujours le même chemin avec les mêmes objets parce que de toute façon, enfin, pour en fait aussi implanter dans l'esprit du spectateur qu'il allait nous voir à des moments et qu'on n'était pas des actrices, mais qu'on allait être une présence technique un peu de base au plateau. Et du coup, au fur et à mesure des soirs, Charles prenait de plus en plus de liberté avec nos passages. Et le dernier soir, je me suis fait engueuler parce qu'il m'a dit « Mais vous trouvez pas la cuisine ? Mais vous êtes complètement conne, ma pauvre fille !» Et du coup, j'étais pas du tout préparée à ce qu'il me parle et à ce qu'il me prenne en compte comme personnage. Du coup, je lui ai dit « Je suis désolée, j'ai pas compris où c'était. » Il me dit « Au fond du couloir, et vous allez poser cette bassine tout de suite. » Et après, quand je suis réapparue, parce que je faisais toujours le même trajet, il me dit « Écoutez, je veux plus vous parler, je veux plus vous voir, sortez hors de ma vue. » Donc voilà, c'est de l'ordre de l'improvisation.
C'est vraiment effectivement un bon exemple de choses où Pauline a ramené une scène écrite qui arrivait avec cette idée de préparation et où en fait les impros qu'on a fait nous dans le travail préparatoire autour de ces scènes-là, bah, on a souhaité nous garder cette dynamique-là. Enfin, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il n'y a que il y a que ça de vrai, dans le sens où pour vraiment sentir cette dynamique de préparation, il faut qu'il y ait une part de choses improvisées et de choses pas écrites, parce que sinon ça devient tout de suite dès le début très figé, et c'était quelque chose qu'on souhaitait vraiment éviter au maximum. Donc effectivement, si ça se ressent, tant mieux.
Alors, je voudrais revenir sur un personnage qui a été mon personnage préféré, ouais, quand même. Guise.
Ça. Oula. Mais tous les suffrages de la gente féminine vont au duc de Guise. Hein. C'est assez étonnant.
Et aussi à Charles.
Moi, j'ai des et aussi à Charles.
C'est vrai. Alors, voilà, en plus, Charles, c'est vrai que comme acteur, j'avais déjà vu jouer dans L'Homme qui rit.
Oui, du coup. Ouais.
Voilà, il était déjà merveilleux dans L'Homme qui rit. Alors, c'est vrai que. Quand même. Alors Guise, qui est quand même très intéressant du point de vue aussi de tout ce que porte le personnage en termes de fanatisme, d'intolérance religieuse, etc. Ça aussi, à quel point est-ce que c'est dans le texte original ? À quel point est-ce que ça vient de vous ?
Disons qu'il y a le texte de Marlowe. Enfin, il y a l'histoire, comme tu le disais au tout début de l'émission. Il y a l'histoire, il y a Marlowe, il y a nous. On se met tout en bas, hein, bien sûr. Mais c'est juste que du coup, il y a des degrés d'écart en fait à chaque fois. Et du coup, le Guise de Marlowe, il a moins une intolérance religieuse. Et là, il se trouve que chez Marlowe, c'est une intolérance plutôt sociale, presque une intolérance de classe en fait.
Quoi ? Mais Marlowe, mais voyons. Mais Marlowe très moderne. Respect d'Histoire de France, voyons.
Marlowe très moderne. Très moderne, puisque en fait Guise, je sais pas si vous l'avez remarqué dans la pièce, dit tout le temps rien que des pecnos, tous ces hommes ce ne sont que des pecnos, moi je suis un duc. Et en fait, il a à cœur de se démarquer énormément de tous les autres parce que enfin nous on l'a travaillé comme ça parce que d'une part, il n'est pas dans la famille royale vraiment le noyau de la famille royale. Se démarquer des gens et les traiter de pecnos et les rabaisser, ça lui permet de s'accrocher à la famille royale, à être plus proche de la famille royale et à se sentir appartenir en fait à cette famille royale. Et donc, ça nous intéressait peut-être un peu plus parce que Marlowe déjà nous pointait dans cette direction, cette espèce d'intolérance vis-à-vis des autres, ce mépris en fait. Et à un moment donné, dans une didascalie d'un texte de Mélissa, le passage où il est en train de parler à l'étudiant, donc la veste accrochée contre le mur, il le méprise et parce qu'il n'a pas d'argent. Et en fait, Mélissa avait écrit « Mépris de Guise » alors que lui-même vit de subventions. C'est une didascalie que j'adore. Et il méprise les pecnos, donc il dit souvent ce mot pecno. Et du coup, c'est quelque chose qui nous intéressait assez, c'est-à-dire où se situe le mépris de classe et comment on peut mépriser un groupe de gens pour se rattacher à un autre groupe de gens.
Et c'est vrai qu'il était, enfin, dans la pièce de Marlowe, il est dans une position assez compliquée parce qu'effectivement, il passe sa vie à traiter les autres, les gens qui l'entourent, de pecno. Et en même temps, quand il se retrouve face à cet étudiant, donc Ramé, que nous on a choisi de transformer en scène, en monologue en fait, parce que finalement, la version dialoguée de Marlowe apporte, enfin, oula, que les anglicistes me pardonnent, la version dialoguée de. Voilà, ça va, il est mort. Bon, bah, la version de Marlowe n'apportait pas non plus. C'était une scène qui ressemblait à toutes les scènes de Massacre. En fait, de cette pièce, de Massacre à Paris, à savoir je vais te tuer, non, ne me tue pas, si, parce que t'es un pecno, haha, putsch, je te tue, terminé. Bon, donc du coup, il y avait un peu plus de discours autour de ça, mais nous, on a choisi de restituer ce discours-là sous forme de monologue. Et en fait, cette position-là, elle est particulière parce qu'en fait, ce qu'il reproche à cet étudiant, c'est d'être un intello. C'était ce personnage un peu étrange qui, à la fois, reproche aux gens d'être des pecnos et qui est un peu lui-même un beauf. Enfin, pour si on veut tirer les choses vers un modernisme qui n'est pas forcément du meilleur goût, mais c'est un personnage qui a cette espèce de dualité-là, de à la fois, c'est un personnage qui est très beau et qui est très éclatant et qui est justement quelque chose de très noble dans un sens un peu compassé, mais de très haut, on va dire, et en même temps qui parfois est d'un hyper bas de plafond. Mmh. Et c'est quelque chose parce que du coup, Pauline parlait de cette question de l'intolérance sociale, on va dire. Historiquement, on s'attendrait à retrouver l'intolérance religieuse. En fait, chez Marlowe, je pense pas me tromper en disant qu'il est complètement athée. En fait, dans son monologue, ça c'est quelque chose que nous on n'a pas rajouté quand il dit religion. J'ai honte de penser que la terre ne puisse être façonnée qu'à partir de ce mot qui n'est finalement qu'un tout petit son, religion. Et en fait, c'est vraiment quelque chose pour lequel il n'a aucune considération. Et quelque part, chez Marlowe, c'est le cas pour Catherine aussi. Aussi étonnant que ça puisse paraître.
Ils sont politiques avant d'être religieux.
Ouais. ils sont dans des relations sociales et politiques avant d'être dans des relations de religion, en fait. Ce qui est quelque chose qui nous a beaucoup frappé, parce que la Saint-Barthélemy, je pense que pour tout le monde, c'est avant tout une histoire religieuse. Et puis après, se greffent quelques petites considérations politiques qu'on connaît assez peu si on n'est pas historien. Et alors que chez Marlowe, c'est exactement le contraire. La partie religieuse n'a pas d'intérêt, quoi.
Pour la minute historique, je pense que aussi l'athéisme de Marlowe a dû quand même assez jouer. Oui. Enfin, je pense que le fait qu'il était condamné comme athée, qu'il était un athée notoire et il se vantait aussi de son athéisme, ça a fait aussi qu'il s'intéressait beaucoup plus à l'aspect politique et, alors attention, anachronisme de fou, médiatique aussi de cet événement, que de son aspect religieux. Je pense que ça lui parlait davantage. Et je me permets juste de terminer sur Guise, parce que c'est une chose qui nous avait assez parlé. On voit très bien le trajet qu'il fait dans la pièce de c'est l'instigateur, l'organisateur, le planificateur de la Saint-Barthélemy, et à la fin il meurt parce qu'il était cocu et que sa femme a couché avec un autre, et du coup il va se faire bêtement tuer comme un con. En fait, il dévie complètement des préoccupations politiques à quelque chose de très très trivial, de complètement prosaïque, et du coup il s'égare complètement dans la pièce, ce qui est assez étonnant.
Alors, est-ce que les baskets fluo étaient empoisonnées? Parce que je ne comprends pas exactement comment meurt la belle-mère.
La vieille reine, ouais, la vieille reine de Navarre. Alors ça, c'est quelque chose dans le texte. Vous vous en doutez, on l'a changé. Dans le texte original de Marlowe, en fait, on lui offre, enfin du coup, c'est Guise, de même manière, qui lui fait offrir des gants empoisonnés, en fait. Mais c'est le parfum de ces gants qui la font mourir. C'est une scène que je pense Pauline comme moi, on aimait vraiment beaucoup, parce que du coup, elle ouvre cette boîte et elle respire. Elle ça sent un petit peu fort et petit à petit elle se sent partir, etc. Oh. Sauf que dynamiquement ça ne passait pas du tout, c'était pas du tout c'était très convenu, très attendu, et voilà, visuellement c'était très limité, et comme nous on souhaitait faire cette grosse scène de mariage, faut éclatante. Être honnête, très éclatante et bordélique et foisonnante
et disco
et pas mal dance floor, du coup c'est visuellement ça fonctionnait pas, en fait. Et donc encore une fois, on a fait plusieurs improvisations, et les improvisations qu'on a fait avec les comédiens, on leur disait prenez un objet et peu importe quel objet, c'est cet objet qui va tuer la vieille reine, et pour travailler sur plutôt comment est-ce qu'on met cet objet là en valeur, peu importe l'objet, pour montrer que c'est par ce biais là qu'elle va mourir,
peu importe la crédibilité du processus de mort. C'est le procédé qui nous intéresse, c'est-à-dire à partir du moment où un objet a été pointé comme létal, il peut tuer la personne d'une manière ou d'une autre de toute façon, à partir du moment où on l'a pointé comme étant dangereux.
Donc nous on avait travaillé ça, et effectivement ça nous semblait fonctionner. Par contre, en termes de lisibilité, et on aimait beaucoup cette idée qu'elle mette des chaussures et que elle se retrouve à danser, alors que il y a une chose dont on n'a pas parlé, je fais une petite incise, et qui nous a beaucoup fasciné et qui est la raison pour laquelle cette scène de début est une grande scène de danse et de fête. En lisant des ouvrages sur la Saint-Barthélemy, on s'est rendu compte que les protestants, en théorie, ne dansent pas. Ils ne dansent pas.
Ils ne font pas la fête.
Ils ne font pas la fête, les protestants. Ils s'habillent en noir, mal. Et du coup, tous les catholiques au mariage les regardent de travers en disant qu'ils n'ont même pas pu s'habiller bien. En plus, ils ne dansent pas, ils ne font pas la fête. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et nous, c'est quelque chose qui nous agitait beaucoup, cette idée de gens qui, pour des raisons religieuses, ne font pas la fête. Enfin,
et cette idée qu'on tue des gens parce qu'ils ne savent pas faire la fête. En raccourci, en énorme raccourci, moi ça me fascinait.
C'était quelque chose qui nous intéressait vachement. Et donc, du coup, pour en revenir à la question de pourquoi les baskets fluo spécifiquement, en fait, avec Pauline, bon, comme on voulait vraiment donner cette idée qu'elle mourait par la danse, quoi, on avait vraiment travaillé ces histoires-là avec l'impro, et ça marchait pour nous. Ça marchait vraiment pour nous. On voyait bien qu'elle mourait à cause des baskets, mais en fait, pour le public, c'est vrai que ça aurait été un peu obscur, en fait. Donc, on s'est demandé à la façon dont on pourrait clarifier ça. Et la première suggestion de Pauline, ça a été de proposer des baskets qui clignotent comme les baskets pour enfants. Sauf qu'en trouver en 39-40, c'était pas possible. Et donc, on s'est retrouvé à chercher sur Internet si ça existait, des chaussures qui clignotent en 39-40. Et la réponse est non, d'ailleurs, si vous voulez savoir. Mais par contre, on est tombé sur ces lacets fluo qui étaient jaunes, en plus, comme la police de l'affiche. Donc, on était assez ravis. Donc, on les a commandés. Et quand ils sont arrivés, on a eu la confirmation que voilà, ça allait bien donner au public le sens du fait qu'elle mourait par ses baskets.
Voilà. J'ajoute juste que c'est typiquement le genre de choses pour lesquelles c'est amusant et intéressant d'être deux, puisque c'est typiquement le genre d'idée où il y en a une qui dit « Et si on faisait ça ?» et qu'en fait ça paraît un peu fou, et on se dit non, on va quand même pas faire ça, et en fait il faut être deux pour basculer dans ce genre de petite folie.
Pour pas être trop sage.
Autre chose qui m'a laissé un peu perplexe, le personnage de Margot, on l'a oublié, elle a disparu.
Donc c'est Marlowe qui a fait disparaître Margot, parce que en fait elle ne dit que quelques petites répliques dans la pièce, des répliques qu'on a jugées et qu'on a trouvées qui s'imposaient à nos yeux avec Mélissa d'une platitude assez navrante, mais voulue en fait, une platitude voulue. C'était vraiment, déjà Marlowe la traitait comme une image visuelle, un personnage inutile par rapport à la vision magnifique et flamboyante qu'il donne personne de la femme, ce qui est un peu bête, avec Catherine. Là, Margot, c'est vraiment un personnage en carton, quoi. Du coup, on l'a voulu la traiter comme ça aussi, comme une image, vraiment une apparition dans le cortège du mariage, la première vision du mariage. Et ensuite, elle disparaît parce que chez Marlowe, elle disparaît et qu'on n'a plus aucune nouvelle d'elle pendant tout le massacre. Donc nous, on l'a même moins fait disparaître que Marlowe, puisqu'on a remis une petite vidéo d'elle pendant le massacre, de ce qu'elle est en train de faire. Et en fait, c'est Charles qui la protège des bruits du massacre en mettant ses mains sur ses oreilles. En fait, elle n'est qu'un outil dans le processus de concorde entre protestants et catholiques. Et ensuite, quand ce processus se délite, elle disparaît.